Bonsoir, un très mauvais cru en 2017 sur le front de la cybersécurité. Compte tenu du nombre d'attaques, leur ampleur, leur sophistication également, les victimes, les objectifs sont de plus en plus nombreux et non uniquement les entreprises, hein, pas toujours sensibilisées, pas toujours préparées. Oui, parce que la difficulté, c'est de pouvoir eh bien lutter donc partout, hein, sur des terrains de plus en plus vastes, terre, air, mer. Cloud, oui, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Et on le voit, les cibles hein, qui vont se multiplier avec les villes intelligentes, les voitures, les objets connectés. Alors finalement, en matière de cybersécurité, le pire n'est-il pas à venir ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, ce très mauvais cru 2017, ce bilan, hein, c'est l'ANSSI, l'agence officielle de lutte rattachée à Matignon, l'agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui l'a révélé ce matin, son rapport annuel, agence dirigée par Guillaume Poupard. Il est avec nous ici sur le plateau des décodeurs de l'écho, tout comme Jérôme Billois, expert cybersécurité dans le cabinet Webstone, Bernard Duterque, le directeur de la souscription des risques spécialisés chez Generali France. Oui, la parole aux assureurs, justement. Oui, il y a un marché en devenir, hein, justement, quand on parle de cyberattaque. Et puis Frédéric Simotel, tout naturellement, éditorialiste high-tech à BFM Business. Alors c'est vrai, 2017, vous vous souvenez tous comment le virus WannaCry avait infecté des boîtes aussi diverses, grosses boîtes, hein, telles que Telefonica en Espagne, Saint-Gobain, Renault, avec des sites qui avaient été complètement paralysés, Maersk également. Oui, Guillaume Poupard, c'est emblématique, hein, de cette nouvelle tendance des attaques, toucher tout le monde de façon indifférenciée. Vous l'avez noté dans votre rapport annuel.
Les attaques ne sont pas nouvelles. C'est vrai qu'on voit se développer la cybermenace avec le développement du numérique. De toute manière, c'est consubstantiel. Ce qui est nouveau, en effet, ce sont des attaquants de plus en plus compétents. Clair. Ils progressent eux aussi. Ce sont des victimes qui aujourd'hui, n'importe qui peut être victime, n'importe quelle entreprise. Ceux qui encore, il y a 2, 3, 4 ans, pouvaient se dire « je suis pas une cible, en fait, il y a rien à voler chez moi ». Ce sont des cibles aujourd'hui parce que parfois les attaques elles sont là non pas pour voler de l'information mais bien pour détruire. Et puis, on voit bien que l'évolution technologique, qu'il n'est pas question de remettre en question d'ailleurs, mais qu'il faut accompagner, elle va pas nous aider. Les objets connectés, le cloud que vous citiez et tout ça, ça va continuer à développer ces cybermenaces. Donc on est condamné à se défendre face à ça, à faire un front collectif. Je suis content de vous entendre dire que c'est l'affaire de tous, en effet, de tous et de tous ensemble tous pour ensemble. Lutter contre ça.
Bien sûr, vous avez raison. On reparlera des entreprises, justement. On verra comment notre vie, c'est sûr, elle va s'améliorer avec les objets connectés, les vies intelligentes. Mais évidemment, il y a un revers de la médaille. On est peut-être beaucoup plus vulnérable. Juste Jérôme Billois, ce virus WannaCry qui avait infecté des tas d'entreprises, on a su au final d'où ça venait, qui c'était et pourquoi ?
Ah, c'est une grande question, l'attribution dans le cyberespace. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que dans le cyberespace, je veux dire, le brouillard de guerre, il est extrêmement épais. Donc, il y a des pistes sur WannaCry, il y a des pistes sur NotPetya. On va croiser des faisceaux d'indices techniques en allant chercher de manière très précise dans les ordinateurs ce qui s'est passé, avec finalement des objectifs géopolitiques d'un certain nombre de pays. Donc ce soir, je peux pas vous répondre par l'affirmative. On ne sait pas exactement qui il y a derrière. Il y a des pistes de plusieurs pays, mais je me lancerai pas dans une attribution comme ça en direct à la télé. Ce serait malvenu.
Bon, juste encore un mot, Guillaume Poupard, aussi sur l'autre tendance que vous avez pointée, vous, au nom de l'ANSSI que vous dirigez. C'est la tentative de déstabilisation, déstabiliser le processus démocratique, économique. Et c'est vrai, on se souvient des États-Unis avec la campagne d'Hillary Clinton qui avait été largement impactée donc à la fin de l'année 2016. Et l'affaire n'est pas finie, comme on le sait, bien entendu. La France, elle est aussi impactée lors de la campagne. Il y a un empile qui a conduit à l'élection du président Macron.
Alors, ça fait partie des mauvaises surprises depuis 2016. Le fait que nos processus démocratiques même puissent être influencés par de l'attaque informatique, mais par de l'influence, plus généralement, par l'usage des réseaux sociaux. Enfin, c'est un sujet qui est très vaste, évidemment. Dorénavant, il va falloir apprendre à vivre avec ça. On a observé, en effet, ce qui s'est passé dans la campagne présidentielle américaine en 2016. On avait l'affaire d'intention qui ne se passe pas la même chose en France, d'où un certain nombre de communications vis-à-vis des acteurs, des équipes de campagne, des partis politiques, mais également des administrations qui contribuent à la bonne marche des élections, dans un contexte qui est complexe, évidemment, parce que une agence comme l'ANSSI n'a pas vocation à aller faire des audits de sécurité au sein des équipes de campagne, ce serait assez baroque. Et malgré ça, on a réussi quand même à faire front, là encore ensemble, par de la prévention, par de l'anticipation, par de la sensibilisation de ces différents acteurs. Et de fait, on a quand même eu des attaques pendant la campagne, avec notamment des mails qui ont été révélés, sans impact, très clairement, parce que les choses avaient été bien préparées. Mais dans toutes les élections à venir, les référendums, les différentes élections, il va falloir anticiper le risque d'ingérence.
Ouais, ouais.
Le terme n'est pas trop fort. De la part d'autres pays, on ne sait pas forcément d'ailleurs qui c'est. Il y a des fois, on s'en doute assez fortement, mais il y a des fois, on ne sait pas toujours. D'ingérence, parce que certains vont chercher à utiliser ce côté obscur du numérique pour jouer ça contre les démocraties.
Il y a un camp qui a été plus impacté, plus visé qu'un autre ou pas on peut le dire un an après ou pas?
En France?
Oui, en France, bien
en
sûr.
En France, c'est l'équipe d'En Marche qui a été victime à deux jours de l'élection du deuxième tour, sans impact, là encore, heureusement, grâce à la bonne réaction, grâce à la bonne anticipation, grâce également à la responsabilité des médias qui ne se sont pas jetés là-dessus, qui ne sont pas tombés dans le piège.
Bien sûr.
Mais ça, voilà, c'est pas une fois, c'est pas juste un truc spécifique 2017, c'est quelque chose qu'on va vivre dans les années à venir, de manière globale, il va falloir apprendre à vivre avec.
C'est quoi les modes opératoires, Frédéric Simotel, Jérôme Bilois, Bernard Duterte, c'est quoi les modes opératoires? Quelle forme ça prend, ces attaques, justement?
La plus classique aujourd'hui, ça reste... Il y a le phishing, hein, l'hameçonnage, c'est-à-dire on reçoit un email a priori anodin, voire même d'un de ses contacts, et puis on clique dessus, il y a une pièce jointe où il y a un petit fichier qui va se déclencher, qui va aller installer qui va installer un virus, et puis on va récupérer des données. Mais après, ça prend différentes formes. Il y a des attaques massives sur les serveurs d'une entreprise pour bloquer l'activité de cette entreprise. Il y a tout un tas de choses. Et après, les virus, ils peuvent aller détruire des données, vraiment il y a une palette d'outils. Ça dépend après ce que veulent faire les pirates, si c'est juste du un peu comme dans la vie,
oui, ben
jeu,
c'est ça,
si
oui.
Du vandalisme, alors. Si c'est du vol de données, si derrière il y a du racket, de la rançon,
du sabotage,
si c'est de la déstabilisation politique, mais ça peut aussi être de la distribution économique. Entre deux concurrents sur un même projet. Enfin voilà, il y a tout un tas de... On est vraiment comme dans la vie courante de ce qu'on peut voir dans
Bernard Duterte, Generali France.
Ah oui, c'est vrai qu'on voit effectivement beaucoup de crimes crapuleux ou du compte financier. Le but, c'est de faire de l'argent avec des rançons, notamment par le biais de phishing ou autre. Ça, c'est le plus habituel, en tous les cas, pour les petites et moyennes entreprises qui sont attaquées. 70%, un peu plus de 70% sont attaqués par des rançons logicielles, comme on dit, ransomware, dont le but, c'est vraiment de faire de l'argent.
Piquer de l'argent.
Et après, effectivement, on a des attaques beaucoup plus subtiles, beaucoup plus dangereuses, je dirais, qui sont le vol de données sensibles, le vol de plans, le vol de propriété intellectuelle, notamment, qu'on retrouve assez régulièrement, hélas.
Oui, alors, les entreprises, ça tombe bien, Jérôme Bilois, parce qu'il y a le rapport de l'ANSSI, dirigé par Guillaume Poupard. Il y a aussi l'enquête annuelle de l'ERMES avec la DFCG, l'Association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion. C'est Laure Clausier qui nous en parlait ce matin dans la vie de bureau. Les entreprises, elles sont 7 sur 10 quand même, à avoir été visées par une attaque en 2017. Alors, moins d'attaques que l'année précédente, mais plus efficace. Avant, c'était très industriel. Les pirates lançaient leurs filets, boum boum, on voyait ce qu'ils récupéraient. Là, aujourd'hui, ils tentent moins, mais avec un meilleur taux de réussite. Ils se professionnalisent en quelque sorte, les pirates. Ils rentrent beaucoup plus facilement dans les entreprises pour connaître l'environnement également, les personnes. Et comme ça, ces pirates sont plus efficaces.
C'est ce qu'on voit. Clairement, la menace se professionnalise. Et derrière, l'entreprise, elle a du mal à savoir où elle doit se sécuriser. Et en fait, c'est le conseil numéro un qu'on donne, nous, aux dirigeants des entreprises, aux responsables de leur sécurité. C'est mettez-vous dans l'œil du cybercriminel. Si j'étais un cybercriminel, par où je vous attaquerais et qu'est-ce que j'irais chercher? Est-ce que j'aurais une motivation idéologique? Si, par exemple, vous êtes une marque très visible, peut-être qu'on veut nuire à votre marque. Si vous manipulez beaucoup de données à caractère personnel, vous avez des données cartes bancaires, du paiement ou des données de santé.
On récupère.
Là, la motivation, elle peut clairement être financière. Et puis après, si vous êtes un acteur clé de l'économie, un acteur étatique, un acteur stratégique, là, il peut y avoir une motivation d'espionnage ou de déstabilisation. Et donc, voilà, vraiment, c'est se mettre dans la peau du cybercriminel pour savoir comment on va pouvoir être attaqué et arriver à, par rapport à ce déluge de cyberattaques. On a quasiment une nouvelle cyberattaque par semaine, limite par jour. Et quelque part, on voit arriver une cyberfatigue quelque part. Donc, il faut arriver à prendre du recul par rapport à ça.
Vous dites cyberfatigue, ça veut dire quoi? Qu'on est un peu, on baisse les bras, il y a une lassitude face aux attaques, c'est ça, non?
Alors moi, je vois, il y a vraiment deux cas. Il y a même trois cas. Il y a ceux qui n'ont encore rien fait et qui découvrent. Bon, là, il y en a encore malheureusement beaucoup. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont désarmés parce que ils se prennent un déluge de mauvaises nouvelles toutes les semaines et ils se disent, je sais pas par où attaquer. Voilà. Et c'est ceux-là qu'aujourd'hui, il faut aider. Par ces conseils très concrets, alors comme donne aussi beaucoup l'Agence nationale de sécurité, et par cette logique de se dire qui va m'attaquer et pourquoi. Et puis il y a ceux qui ont compris, c'est la troisième catégorie, et là on a des très grandes entreprises qui ont investi, mais des investissements qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, parce que bien souvent on a quand même accumulé un retard. Il faut être transparent, je pense, ce soir, hein, et de dire que ce sujet, ça a été un sujet de sous-investissement pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et donc, ce retard, il faut le rattraper. Et donc, c'est des plans de plusieurs centaines de millions d'euros.
Frédéric Simotel, Guillaume Poupard, juste après.
Il y a un sujet trop technique aussi. On l'a trop traité au niveau technique, en imaginant que parce qu'on installe des logiciels et, ou des routeurs, enfin, ou des firewalls, enfin, tout un genre d'outils, ça suffisait. Puis moi, je dirais qu'il y a aussi quelque chose, c'est avec le numérique, on perd sa vigilance. Chez soi, aujourd'hui, on fait attention, on ferme sa porte à clé, on ferme tout, on fait attention. Si on a perdu ses clés, ben on va tout de suite appeler, on va ça tout de suite refaire ses clés, changer les serrures et tout ça. Aujourd'hui, et dans le numérique, je sais pas pourquoi, on vit autrement, on laisse tout ouvert, on va déjeuner, on laisse son PC ouvert, on est à l'hôtel, hop, on laisse, on nous appelle pour dîner, on va laisser son PC ouvert, branché sur le wifi de l'hôtel et on va partir. On perd toute vigilance. Alors c'est la sensibilisation, on va pas arrêter de le, enfin on va le dire toujours, hein, c'est de la formation. Sensibilisation. Mais il y a ça aussi, c'est le numérique. Même des gens habitués, on est en train de parler au téléphone, on clique sur un mail sans faire attention, pof, ça y est, le mal est fait. Donc c'est une vigilance de tout moment aussi. Enfin voilà.
Et c'est vrai que les ruses ne manquent pas. Hein. Guillaume Poupard, faux fournisseur, attaque cyber, faux professionnel du chiffre ou du droit, voilà ce que disait Euler Hermès, ça c'est le top 3 des fraudes. Le mode de la fraude au faux président est passé, hein, c'est-à-dire se faire passer, vous savez, on appelle la secrétaire, etc., on dit virez-moi, etc., de l'argent, et puis bon, très bien, tout ça c'est... Bon, tout ça, ça s'appuie aussi sur l'usage d'outils technologiques et vice-versa. Vous parliez tout à l'heure de ransomware, c'est-à-dire les pirates, avant, ils vont se renseigner sur le format des adresses mail, le ton de la communication utilisée. Donc tout ça, c'est très intelligemment fait. Les entreprises, franchement, elles s'imaginent jamais des cibles, Guillaume Poupard.
Il y a une forme de naïveté, en effet. Ouais. Disons que la situation est assez hétérogène. Certaines entreprises ont une vraie culture de sécurité. Je prends l'exemple des banques. C'est un exemple positif.
Normal,
je peux les citer.
Banque, assurance, voilà.
La sécurité, voilà. La sécurité, ça fait partie de leur ADN. Ils en font depuis toujours. Il y a une évolution technologique et ils font évoluer leur compréhension des risques avec cette évolution technologique. Il y a d'autres domaines qui, au contraire, sont très naïfs. Dans des domaines industriels, il y a certains domaines où il suffit d'avoir mis des barbelés autour des sites de production et on se sent protégé. Avec le numérique, c'est plus vrai parce que les barbelés, ils n'arrêtent pas tout ce numérique. Et aujourd'hui, des sites deviennent extrêmement connectés, extrêmement numérisés, parfois même à l'insu des opérateurs eux-mêmes, et c'est là que les risques les plus importants peuvent arriver. Et donc ce qu'il faut vraiment, c'est être capable d'expliquer qu'il faut pas être naïf. Il faut parfois aller tenir un contre-discours par rapport au discours commercial, parce qu'évidemment le numérique c'est magique, vous le savez comme moi, ça va vous permettre de faire des économies très facilement, ça va vous décharger d'un fardeau, et puis au passage, si avec vos systèmes numériques vous pouviez donner vos données, ce serait encore mieux probablement. En fait non, le numérique ça va devenir le cœur de beaucoup d'entreprises, de quasiment toutes les entreprises, qui d'une manière ou d'une autre auront leur numérique à gérer. Donc avant de faire de la cybersécurité, très souvent, ce que l'on est obligé, c'est de pousser les gens avec qui on travaille à reprendre la main, à remaîtriser le numérique. Et quand on maîtrise son numérique, là on a une chance d'avoir une sécurité efficace, et c'est même pas si compliqué que ça, et les règles, on les promeut, et elles sont tout à fait abordables à ce moment-là.
Vous avez raison, Guillaume Poupard. Bernard Duterck, Generali, je reprends toujours l'enquête de Euler Hermès et de la DFCG, qui explique la bonne parade, déjà c'est l'humain, c'est la vigilance, c'est le collaborateur dans une réaction, dans une initiative personnelle, qui dans un cas sur deux a permis de déjouer les tentatives de fraude externe. Et les procédures de contrôle interne n'arrivent qu'en seconde place. N'oublions pas l'humain, justement, voilà, un truc qui va sonner creux, un mail, voilà, et tout ça, ça doit alerter. Il faut être très vigilant.
Ça, c'est clair. L'humain, c'est la clé, en tous les cas pour les assureurs, mais donc pour les entreprises. Si on n'a pas sensibilisé les collaborateurs d'une entreprise aux problématiques liées au cyber-risque, il est clair qu'on ne pourra rien faire derrière. Et là, l'assureur, il sera là parce qu'il faudra effectivement résoudre le problème.
Voilà. Est-ce que vous avez les PME, ça fait partie de leur priorité? On fait régulièrement une émission qui s'appelle le défi ETI. Bon, on a l'impression que souvent la conquête de clients, la conquête de marché, gérer les procédures administratives, souvent ça arrive au-dessus, c'est plus important que gérer une cyberattaque dans une PME.
Alors oui, non,
pas sensibilisés.
Tout à fait, ils sont pas sensibilisés. Alors on voit d'ailleurs la prise de conscience, on la voit comme le disait Guillaume Poupard, de la même façon, nous assureurs, on voit les grands groupes. Qui sont, je crois que le CAC 40, et il doit y avoir 38 entreprises du CAC 40 qui sont assurées sur 40. Donc ils ont vraiment pris conscience du fait. Après, nous, quand on redescend et que on s'adresse aux PME, voire aux TPE, la prise de conscience, elle est juste émergente.
On dit qu'à peine 5% des PME françaises ont souscrit une cyberassurance. Vrai, faux ou pas?
Ah oui, on doit être à peu près dans ces eaux-là. Effectivement, entre 3 et 5, on ne sait pas exactement, mais oui, globalement.
C'est quoi une cyberassurance? Vous proposez quoi comme, par exemple, chez Generali, Bernard Duterque?
Alors, la cyberassurance, c'est deux volets essentiels, un volet de service et un volet d'indemnisation.
Oui.
Le volet de service, c'est avec un prestataire de cybersécurité avec qui nous travaillons, qui est Ineo Digital, la capacité à réagir tout de suite vis-à-vis de notre client quand il a un sinistre cyber, quand il se retrouve avec l'écran noir et que rien ne fonctionne. Là, il a un numéro, il appelle Europe Assistance, qui fait partie du groupe.
Enfin, voilà, on comprend.
Après, notre prestataire va intervenir pour remédier au plus vite et pour lui permettre de repartir et de retravailler le plus vite possible.
Et tout de suite, Guillaume Poupard nous disait, donc, il y a des secteurs très bien protégés, banque, assurance. Je suppose que l'aéronautique, la défense sont bien protégés aussi, parce que tout ça, évidemment, c'est très surveillé, très espionné. Le reste ne l'est pas toujours. Je pense à la distribution.
Non, non.
Et pourtant, la distribution génère des données. Et les données, quelque part, c'est de l'argent.
Je dirais que dès lors que vous êtes une entreprise et que vous avez quelques employés, vous avez des données sensibles.
Des données bancaires, notamment. Voilà.
Celles de vos employés. Donc, effectivement, toute entreprise est une cible.
Guillaume Poupard, patron de
l'ANSSI. Toute entreprise est une cible. Ça, c'est très vrai. Ce qu'il faut, c'est être capable d'adapter les solutions en fonction des entreprises. Je suis toujours très prudent avec le discours un petit peu moralisateur, notamment vis-à-vis des PME. Sincèrement, une PME de 10 personnes, une start-up, on va pas leur demander de devenir des experts en cybersécurité.
Ah,
on peut leur demander d'avoir un comportement responsable. Attention à vos mots de passe, attention à vos smartphones, attention, voilà. Des règles de base que n'importe qui doit pouvoir appliquer, et il faut le faire impérativement. Et après, il faut des solutions qui soient elles-mêmes sécurisées. Et ça, aujourd'hui, c'est encore un domaine dans lequel il y a des progrès à faire. Si je suis optimiste, et heureusement que je le suis pour faire le métier que je fais, je vois que l'évolution technologique, elle peut jouer pour nous également. Tout ce qui est cloud computing, le fait justement de ne plus avoir à gérer sa propre informatique, évidemment ça nous fait peur, évidemment c'est une menace et on alerte notamment les grands groupes autour de ça. Mais pour une PME, si elle peut partir par une sorte d'externalisation de son informatique et au passage de la sécurité numérique qui va avec, on a peut-être les pistes de solutions. Donc c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, de manière à adapter les solutions aux différents types de catégories.
Jérôme Billois, Webstone.
Oui, il y a clairement une problématique aujourd'hui, c'est les compétences. Voilà. On manque de compétences cyber, donc c'est pour ça que pour couvrir les besoins des PME, des ETI,
personne, ça coûte cher.
La solution, ça coûte cher.
Embaucher,
ça nécessite aussi un fort maintien en compétences parce que on le voit, chaque année la menace elle évolue complètement. Nous on a quelques chiffres que je peux vous partager. Dans les entreprises, dans les grands groupes, ceux qui sont le plus en avance, typiquement ils vont avoir une personne dédiée à la cybersécurité pour 150 employés. Là vous êtes au top du top. De manière moyenne, on va être à 1 pour 500, à peu près. Voilà, ça peut donner des chiffres aux auditeurs pour se dire, est-ce que j'ai bien pris en compte la cybersécurité chez moi? Si j'ai 1000 employés, est-ce que j'ai deux personnes qui font de la cyber? Et puis on voit ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle, on va être à 1 sur 1000, voire encore en dessous.
Oui.
Et il y a des sociétés aujourd'hui, des grosses sociétés qui sont en dessous de ça. Ce chiffre-là, il est assez simple parce qu'il permet tout de suite de se dire, Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai investi assez? Et est-ce que j'ai pris le sujet à bras-le-corps? Parce qu'on le disait tout à l'heure, il faut sensibiliser, il y a des projets techniques, etc. Il faut des gens derrière pour faire vivre ça à l'intérieur de l'entreprise.
Et l'assurance aussi, hein, quand on voit ces PVC, qui a le cabinet de conseil international, qui rappelait que le marché de la cyberassurance, encore au début, hein, 3 milliards de primes dans le monde en ce moment, pour atteindre 10 milliards en 2020, donc tripler d'ici 3 ans. En France, il est estimé à 300 millions d'euros. Aux États-Unis, la moitié des entreprises dans les secteurs exposés, finance, santé, éducation, commerce, sont assurées. On en est loin, bien sûr. Hein.
Alors, je crois que les 300 millions, c'est pas la France, hélas. C'est l'Europe.
Ah, carrément.
La France, on est plutôt aux alentours de 50 millions. Ce qui est très faible, sachant que 90% de la prime provient de grands groupes qui sont assurés.
Frédéric Sibotel.
Non, mais moi, j'en viens toujours à cette histoire de comportement aussi. Hein. C'est vrai que c'est bien d'avoir des RSSI, donc des responsables de la sécurité des systèmes d'information, des compétences. Mais c'est encore une fois, c'est l'affaire de tous. On voit des projets qui démarrent sur une nouvelle application mobile de consultation d'un compte. Ben, il faut que tout de suite, il y ait un réflexe cybersécurité. Ça, c'est des choses qu'on voit pas encore assez parce qu'on veut aller vite, parce qu'on a l'impression. Il y a toute une mentalité à changer. La sécurité, c'est pas un frein. C'est encore vu comme ça dans beaucoup de métiers qui voit ça déjà comme quelque chose de très technique, ça va être un frein, il faut qu'on aille vite. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les entreprises de ce qui s'appelle le shadow IT, c'est-à-dire ce que les utilisateurs, comme vous, comme moi, utilisent dans leur coin sans passer par leur direction informatique. Ça démarre au WeTransfer, hein, que tout le monde connaît. Voilà, le WeTransfer, c'est du shadow IT. Je télécharge des fichiers. Personne n'a la vue dessus, sauf moi. Ouais. Est-ce qu'on sait exactement, est-ce que non. La source... Et c'est tout ça qu'il faut, sur lequel il faut travailler et enlever cette contrainte, montre aux gens, voilà, ça fait partie de leur vie au quotidien. Et voilà, il y a une façon aussi d'apprendre tout ça, de comportement, voilà.
Jérôme Billois.
Là, je pense qu'on a une opportunité maintenant.
Oui.
Parce que quand on voit le scandale sur Facebook, Cambridge Analytica, là, le grand public commence à ressentir l'importance de ces données. Et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un changement d'état d'esprit dans les grandes entreprises sur la manière, aujourd'hui, on est très défensif, on va essayer de protéger son entreprise, de verrouiller les données, de cadenasser tout, et donc ça amène ce biais évoqué à l'instant du « Ah, la sécurité nous embête, on va pas les intégrer », à une nouvelle approche qui peut être de dire aussi « Je transforme la sécurité que je vais mettre dans mon application bancaire dans un moyen de me différencier sur mon marché ». Et on voit un certain nombre de banques aujourd'hui qui, justement, appuie sur ce levier-là en disant chez nous les données on y est très attentif, on va les sécuriser et on va même fournir des services à nos clients autour de la cybersécurité. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à transformer aussi la situation dans les entreprises, quelque chose de très fermé vers quelque chose qui va être un argument de vente.
Guillaume Poupa, on parle des entreprises plus ou moins grosses, hein. Vous êtes à la tête de l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, rattachée donc à l'hôtel de Matignon auprès du Premier ministre. Le gouvernement français, est-ce qu'il est vulnérable? Comment échangent Emmanuel Macron, Édouard Philippe, les ministres? Les messageries actuelles, est-ce qu'elles sont sûres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux?
On peut sûrement faire plein de choses de mieux. On est très modeste. Il faut pas tout mélanger. C'est toute la difficulté de ces cyberattaques. On a l'impression que tout ça se vaut. En fait, il y a des attaques de niveaux très différents, fondamentalement. Notre priorité, c'est de faire en sorte que ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, qu'ils soient publics ou privés, donc les opérateurs les plus critiques pour notre sécurité nationale, restent bien capables de mener à bien leur mission vitale sans subir d'attaques informatiques qui pourraient être absolument dramatiques.
On reviendra sur ce que recouvre ce concept. Mais donc le Premier ministre, le Président, les ministres, ils échangent comment et
fondamentalement, nos ministres, nos autorités, nos décideurs, qu'ils soient publics ou privés, ils sont des cibles, très clairement. Il faut être capable de les protéger. Et pour ça, il faut qu'ils aient compris déjà quel était le niveau de la menace. Après, on peut tous avoir un smartphone dans la poche, un smartphone non sécurisé. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de l'utiliser sans avoir conscience des risques qui sont pris. Et donc, le conseil que je donne très souvent, que ce soit justement dans le secteur privé ou dans le secteur public, c'est ayez conscience de ces risques, utilisez vos smartphones perso pour certaines communications, c'est pas un problème. Mais dites-vous bien qu'il y a plein de gens qui vont être capables d'attraper ce que vous dites, et de l'utiliser, faites leur confiance pour ça. Vous serez pas perdu dans la masse, malheureusement ça marche pas comme ça. Il y a des gens qui savent faire du big data de manière extrêmement efficace pour faire des renseignements. Et puis il y a des choses qu'il faut faire avec des moyens plus sécurisés, comme ceux que l'on développe, qui sont mis à disposition des autorités de l'État, notamment. Et puis il y a des choses, on les fait pas au téléphone. Il y a des choses qui sont tellement sensibles que quand on a besoin d'en parler, on se met dans des pièces spéciales, on laisse les téléphones à l'extérieur, quand bien même ils seraient sécurisés, et on fait en sorte de pas être victime de ces mouchards électroniques ou de ces appareils qui peuvent être transformés en de tels mouchards.
Et en ce moment, les ministres, le président communiquent par Telegram, la messagerie Telegram, c'est vrai ou pas ?
Les membres du gouvernement, comme tout le monde, utilisent les messageries instantanées, oui. Parce que c'est voilà, une fois encore, le but c'est pas de revenir.
Elles sont sûres vraiment ces messageries.
Les messageries du grand public, les messageries qu'il y a dans le grand public ne sont pas sûres.
Oui.
Il y a pas de débat là-dessus. Oui. Et il y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Tout ça, elles ont toutes des vulnérabilités et on peut pas leur faire confiance. Ce sont pas des produits de confiance. Quand ça devient plus sérieux, là, on a des produits plus sécurisés, voire très sécurisés, qui permettent de protéger jusqu'à des niveaux de classifiés de défense, donc des choses extrêmement lourdes. Mais évidemment, c'est pas sur le smartphone perso que c'est installé ces choses-là. Donc on a différents moyens pour différents usages. L'important, c'est vraiment que les utilisateurs, quel que soit leur rang quelque part, aient bien compris où étaient les risques et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire.
Le gouvernement français va se doter d'une nouvelle messagerie cet été, une nouvelle messagerie sécurisée. Comment ça va fonctionner, sur quel device aussi.
Oui, je remarque que cette annonce a accroché la curiosité de beaucoup.
La mienne.
De plein de monde. Oui, mais je trouve ça très très bien. Ouais. L'idée qui est derrière, mais j'en parle un petit peu gêné parce que c'est pas l'ANSSI qui porte ça. On fait partie du projet et on encourage un tel projet. C'est la DINSIC qui est la DSI groupe de l'État un petit peu qui porte ça, notamment sous l'impulsion de son chef qui est Henri Verdier, avec qui on travaille énormément. Et l'idée c'est, mais finalement, est-ce qu'on est condamné à utiliser un WhatsApp, un Telegram, un Signal? Est-ce que par hasard on pourrait pas, à l'échelle de la France, avoir une application concurrente? Alors ça peut paraître. J'entends déjà les trolls qui vont commencer à dire on veut faire une messagerie souveraine, tout ça. Non, c'est pas du tout l'idée. Mais sur la base de ce qui existe aujourd'hui en open source, en logiciel libre, avec un petit peu de développement bien mené, avec des expertises bien choisies, notre espoir, notre ambition, c'est de proposer un outil qui soit concurrent, qui soit aussi agréable ergonomiquement, et surtout dont la gestion ne soit pas faite par des serveurs qui sont je ne sais où, dans je ne sais quel pays étranger, au-delà de l'Europe, mais bien des serveurs qui sont protégés chez nous et qui permettront en même temps d'avoir une communication au sein de l'État français, mais également avec des gens à l'extérieur. Parce que je peux vous assurer une chose, c'est qu'aller voir des ministres aujourd'hui et leur dire « on va vous faire un système super sécurisé et surtout vous pourrez parler à personne avec », évidemment ça les fait pas rêver.
Ah, ils auront un téléphone particulier, un peu comme un théorème de Thalès.
Ils ont déjà des smartphones aujourd'hui qui ont un bon niveau de sécurité. Ouais. On passe par des solutions développées par des acteurs français, des PME françaises d'ailleurs, que l'on qualifie au niveau de l'ANSSI. Ça protège pas contre toutes les menaces. Une fois encore, mais ça permet d'avoir un premier niveau de sécurité. Et si là-dessus on met des applications qui sont bien gérées avec des serveurs au bon endroit, eh bien on a des niveaux raisonnables pour lutter contre plein de menaces.
Bon, on vous retrouve dans un instant, Guillaume Poupard, avec Jérôme Bilois, avec Bernard Duterte, avec Frédéric Simotel. Justement, on parle des cyberattaques ce soir. Est-ce que le plus dur n'est pas à venir, justement, compte tenu eh bien, de cette connexion de notre vie, les voitures, les drones, les villes intelligentes, etc. On va voir comment élever le niveau de sécurité en France, justement. Et puis tiens, le rôle des opérateurs télécoms aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur demander de plus ? À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, c'est le bilan de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, bon, qui montre que 2017, mauvais cru, compte tenu, eh bien, du nombre des attaques, hein, des cyberattaques, justement, leur ampleur, leur sophistication également. Bon, et la suite, la suite, hein, c'est une vie où on va être de plus en plus connecté, une ville de demain, des connexions de plus en plus nombreuses, vous le savez, des réseaux de transport intelligents. Bon, il y aura un côté positif, bien sûr, hein, il y aura des trajets plus sûrs, des voitures autonomes, il y aura probablement moins d'accidents, des livraisons facilitées, tout ça, on achète. Bien entendu, revers de la médaille, c'est qu'on sera de plus en plus vulnérable, hein, voilà. Et puis même en matière de transport aérien aussi, croissance du trafic aérien, on aura peut-être des drones, des voitures volantes, je ne sais pas, tout ça évidemment est vulnérable. Guillaume Poupard, vous êtes à la tête de cette agence nationale, c'est pas un petit peu obsédant votre vie quelque part de se dire d'être toujours prêt, d'avoir toujours un coup d'avance sur la sécurisation quelque part finalement, parce que là... tellement vaste.
Hein. Égoïstement, c'est passionnant. C'est surtout passionnant.
On
vit cette transition numérique, on vit cette évolution numérique et avec une vraie mission qui est le fait de faire en sorte que ça se passe bien, comme vous l'avez décrit. La seule certitude qu'on a, c'est que par contre, si on s'intéresse pas à ces questions de sécurité, ça va être un cauchemar. Mais Annecy ou pas Annecy, quelque part, notre rôle, c'est d'essayer d'anticiper les catastrophes, d'éviter qu'elles se produisent, parce que finalement, il suffirait de laisser faire, et les gens sont pas idiots. Quand il y aura eu des catastrophes, ils réagissent. Je vous assure que moi, j'aime bien aller dans les COMEX, j'aime bien aller expliquer ce que l'on fait. L'ambiance, si on est à froid, sans qu'il y ait eu d'attaque et tout ça, et à chaud après une attaque, c'est absolument pas le même. Je pense que Jérôme a exactement la même expérience.
Avec ses clients, bien sûr.
Donc, notre but, c'est vraiment d'apporter des solutions qui soient réalistes. Il est hors de question de faire de la sécurité absolue partout, ça n'a aucun sens de faire de la sécurité absolue. Ce qu'il faut vraiment, c'est que chacun identifie ses risques, mette la barre au bon niveau, applique les règles que l'on connaît. C'est ça qui est très positif, c'est qu'on sait se protéger aujourd'hui.
Des risques de plus en plus nombreux. Est-ce qu'un jour on va pas, quand on va avoir des voitures connectées, des autobus connectés, des trains connectés, il va y avoir plus en plus de trafic aérien, des drones. L'idée, c'est que quelqu'un un jour prenne le contrôle de tout ça.
Et ben, c'est exactement ce qu'il faut éviter.
Bon.
Et on sait que dans des domaines comme ça qui sont très anxiogènes, la question, c'est pas de dire on va attendre, on va bien voir, et s'il y a un problème, on réagira. Non, ça ne peut pas se produire. C'est une très très grande responsabilité. Ouais. Je suis pas en train de dire que ce sont des domaines qui sont vulnérables. Au contraire, c'est plutôt des domaines qui sont très sérieux en termes de sécurité. Mais cette évolution technologique, elle doit être maîtrisée de manière à éviter des catastrophes qui seraient sans précédent quand on tient compte de l'effet qu'on qualifie de systémique du cyber. Parce que finalement, les menaces dont on parle, les effets dont on parle, ils ont toujours existé, oui. Que ce soit le vol d'informations, l'influence, le sabotage, ça existe depuis toujours.
Le piratage aérien classique, bien sûr.
Piratage aérien, je sais pas, mais enfin,
oui, enfin bon.
Ce qui est très nouveau, c'est le fait que dorénavant, par le numérique, on peut obtenir cet effet, non pas localisé sur une cible, mais à l'échelle mondiale, sur tous les acteurs en même temps. Et donc ça ouvre des scénarios qui sont plus de la science-fiction, qu'il faut être capable d'anticiper, et ça se prépare maintenant, bien évidemment.
Je parlais de la piraterie aérienne d'autrefois, voilà, c'est ça, oui, finalement.
Exactement.
Voilà, à chaque fois qu'il y a des choses modernes, on se met dessus, et puis bon, après, on passe à la phase super. Oui, il y a un problème aussi. Enfin, il y a un besoin aussi de confiance aussi de la part du citoyen aussi. Le citoyen, il va adhérer à la ville intelligente, à la voiture intelligente, à tous ces trucs, ses assistants personnels, ses téléphones. Si derrière, il a l'impression que il n'y a pas de risque. Si derrière, on n'a pas l'impression qu'on va pirater ses données, sa vie privée, etc. Jérôme Bilois, Wavestone.
C'est un vrai souci aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est qu'un produit de confiance. Ouais. Et en tant que consommateur, quand je vais aller dans un supermarché, que je vais vouloir acheter, je sais pas moi, une serrure connectée, un chauffage connecté, etc. Comment je le choisis?
Ah oui.
Ou même une voiture.
Ah oui.
Comment j'évalue aujourd'hui le niveau de sécurité informatique de ma voiture? Alors que ma voiture, toutes les voitures qu'on achète aujourd'hui, elles sont connectées, on a la tablette, on a l'accès à Internet, etc.
Qui doit répondre justement à cette question? Alors
justement,
quel acteur doit répondre à cette question?
Je dirais que le marché bouillonne actuellement là-dessus. Il y a forcément une réponse de chacun des acteurs, individuellement, qui peut l'utiliser comme un argument de vente. Mais derrière, je pense qu'il faut aller au-delà. Et on peut imaginer des choses. Aujourd'hui, il y a des choses très simples pour le grand public. Le marquage CE, vous savez, qu'on voit quand on achète une peluche, on sait que si elle est marquée CE, elle va pas prendre feu immédiatement et faire brûler toute la maison. Et puis qu'il y a des peluches qu'on va acheter sur des marchés non régulés, on sait pas trop d'où elles viennent. Là, il y a un vrai risque. Il faut arriver à ce type de choses très simples. Et je peux vous citer un exemple qu'on essaye de pousser. C'est par exemple les voitures. Aujourd'hui, on a un crash test. C'est les Euro NCAP, les 5 étoiles. Voilà. Si on regarde les critères, il y a pas de critères cyber. Et finalement, on pourrait, dans cette notation, rajouter un espèce de crash test cyber. Est-ce qu'une voiture résiste à une cyberattaque? Et ce serait ce qui ferait les étoiles de la voiture. Ça, c'est simple, c'est compréhensible par le grand public. Après, pour les entreprises, et je pense que Guillaume pourra largement compléter, il faut des choses qui vont encore plus loin pour être vraiment sûr qu'on a des produits de confiance.
Alors, Frédéric Simotel, ensuite Bernard Duterte, Generali.
Il y a un terme que Guillaume Poupard employait tout à l'heure, c'est le partage. C'est quelque chose qui change aussi aujourd'hui. Avant, une entreprise se faisait attaquer, les autres allaient presque à se moquer d'elle en se disant, voilà. Aujourd'hui, on a vraiment vu cet état d'esprit changer. Et aujourd'hui, on voit, la semaine dernière, il y a eu une grosse attaque sur les banques. Tout de suite, chacun collabore, voit comment il a été attaqué, voit un peu la forme, collabore avec l'ANSI, quand c'est des opérateurs d'intérêt vital. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau et qui doit s'instaurer aussi au sein des entreprises. C'est, voilà, on est attaqué, on prévient les autorités qu'il faut. Et puis, on met en route une collaboration entre les différents patrons de sécurité des entreprises, des sous-traitants, enfin de tout son écosystème. Ça, c'est aussi une chose qui est en train de naître et qui est assez positif, parce qu'on est faut pas tomber dans le côté anxiogène, c'est fichu, ils auront toujours un coup d'avance. Non, aujourd'hui, on peut riposter beaucoup plus rapidement avec cette idée du partage.
Bernard Duterte, Generali France, comment est-ce qu'on élève le niveau de cybersécurité en France?
Alors, c'est un peu compliqué parce que, effectivement, pour l'instant, la plupart des entreprises ne se sentent pas vraiment concernées. On a vu, alors je dirais, Pour élever le niveau de sécurité, eh ben, il faut des attaques. On s'est aperçu qu'effectivement, quand WannaCry est arrivé, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience. C'est un cas. Et puis, il y a un autre cas, c'est l'arrivée et l'entrée en vigueur au mois de mai du règlement général sur la protection des données, qui fait beaucoup réagir, effectivement, et qui va nous permettre, je pense, d'avoir une sensibilisation, parce que les données personnelles, ça va être quelque chose de très important, et toutes les entreprises vont être obligées de se sécuriser sur les données personnelles.
Ça va être une opportunité, ce RGPD, quelque part, finalement, d'aller revisiter, de revoir l'intégralité de ces process quand il s'agit des données, justement, et donc peut-être d'intégrer un peu plus de sécurité.
C'est le but, hein. C'est le but, c'est la confiance.
Guillaume Poupard, l'ANSSI.
Bien sûr. Enfin, nous, on s'intéresse à la sécurité des systèmes d'information, des contenants. Le RGPD, il s'intéresse à la sécurité des données. Évidemment, tout ça est totalement lié. Et quand on regarde sur le concret, les recommandations qui sont portées par le RGPD, par la CNIL en France, les recommandations de l'ANSSI, elles vont dans le même sens. Ouais. C'est remaîtriser ces systèmes numériques, les repenser, et puis ensuite faire de la sécurité. Parce que pour protéger les données, il faut évidemment faire de la sécurité informatique. Donc tout ça, ça va dans le même sens. C'est une très bonne chose, même si ça fait peur à certaines entreprises, et je peux le comprendre, parce que il y a un vrai changement de culture derrière tout ça. Mais ce qu'il faut regarder, c'est certainement pas les peines qui peuvent être derrière, qui sont dissuasives, mais c'est bien justement l'opportunité que ça représente de reprendre la main sur son numérique et sur toutes les données qu'il y a à l'intérieur.
Reprendre la main sur son numérique aussi, de la part de l'Europe également, justement, au travers de ce RGPD, et puis au travers évidemment toutes les affaires dont on parle beaucoup liées aux grandes sociétés américaines. L'Europe, elle doit se muscler sur ce terrain de cybersécurité. Comment est-ce qu'on favorise les échanges, Guillaume Poupard?
C'est un sujet majeur. C'est notre priorité pour 2018. Aujourd'hui, on a développé beaucoup de choses au niveau national, sur des questions de souveraineté nationale d'ailleurs parfois, hein. Et on voit les limites du modèle, non pas qu'on renie ce qu'on a fait, mais bien parce qu'on arrive aux limites. Nos alliés allemands notamment sont exactement dans la même situation. Ça fait plusieurs années maintenant que l'on va voir l'Europe, que l'on va voir la Commission européenne et que l'on dit la plaque naturelle, là où on a des valeurs communes, des réglementations communes, des entreprises communes, c'est bien l'Europe aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit capable, au-delà de ces questions de souveraineté nationale, de parler... Le gros mot, c'est autonomie stratégique européenne. Être capable de redévelopper un numérique de confiance éthique avec nos valeurs en Europe. Et ça, il y a beaucoup de travail. Ça passe notamment par le développement de schémas de certification, c'est ce qu'évoquait Jérôme. Pour donner confiance, il faut que on ait des autorités qui soient capables de dire, bah, comme pour la voiture, elle est sûre, elle a tant d'étoiles. Il faut qu'on fasse ça, mais on va pas faire ça à l'échelle des États. On n'imagine pas des constructeurs d'automobiles aller dans chaque État pour se faire certifier. On a besoin d'un système européen. Et c'est là que ce sera efficace. On en parle beaucoup énormément. Et
les opérateurs télécoms, est-ce qu'ils doivent davantage s'impliquer? Est-ce qu'ils ont leur pierre à apporter à l'édifice? Est-ce qu'il faut mettre en place, en œuvre, des systèmes de détection dans leur réseau, justement, repérer quelque part avant que, justement, que l'attaque ne se produise, repérer les logiciels malveillants? Qu'est-ce que vous attendez des opérateurs télécoms?
C'est le deuxième sujet majeur. Aujourd'hui, quand on fait un petit peu le bilan de ce qu'on fait bien et de ce qu'on fait moins bien, on se rend compte que sur la prévention, on a beaucoup fait, on en a beaucoup parlé là. Sur la réaction, on est capable d'aider les victimes, mais bon, c'est valorisant, mais on ne veut pas en arriver là. Et entre les deux, il y a la détection des attaques. Un attaquant très fort qui s'en prend à une cible très faible, il ne faut pas s'imaginer que ça se fait comme ça d'un claquement de doigts. Ça nécessite beaucoup de travail. Et donc, si on est capable de détecter ces attaquants au moment où ils cherchent à rentrer au niveau de leur cible, là, on reprend l'avantage sur l'attaquant. Donc, travailler sur la détection, c'est essentiel. Nous, on le fait au profit des administrations, des ministères. Les grands opérateurs le font à leur propre profit. Et au milieu, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là où les opérateurs ont un rôle à jouer. Sur un sujet qui est un peu compliqué, évidemment, parce que on veut surtout pas remettre en compte des grands principes, comme la neutralité du net, des choses comme ça.
Bien sûr, le fait que vous scanniez avec vos outils les contenus qui passent par l'opérateur.
Non, aussi. On n'est vraiment pas sur les contenus. L'idée, c'est pas d'aller sur les contenus, c'est de détecter les attaques là où elles se trouvent.
Il faut quand même rentrer dans le tuyau quelque part aussi.
Il faut aller...
Est-ce que l'ANSSI veut pouvoir rentrer plus facilement chez un hébergeur, chez un opérateur télécom?
Il y a un projet de loi qui est actuellement en cours de discussion. Il y a deux idées très fortes. D'abord, autoriser les opérateurs télécom par eux-mêmes à rechercher des traces d'attaque dans les flux de leurs clients. Ça ne veut pas dire espionner leurs clients, ça ne veut pas dire leur piquer leurs données. C'est simplement apporter ce service essentiel qui est de chercher ces aiguilles dans la botte de foin.
Et l'autre chose... Et s'ils ne veulent pas, justement, vous dégainez?
Non, aujourd'hui, le rôle, ce que l'on veut porter dans la loi, c'est juste la possibilité de le faire. Et déjà, ce serait une avancée énorme. Et moi, je compte sur la responsabilité des opérateurs, et j'en parle beaucoup avec eux, évidemment, mais également un peu sur la pression de leurs clients pour que les opérateurs commencent un peu à dépolluer tout ce trafic, mais sans y toucher. Simplement détecter ce qui est pollué. L'autre chose, il y a des fois, on est dans des situations totalement agaçantes, vu de l'ANSSI, où on sait que sur tel serveur, chez tel hébergeur, il y a très probablement un attaquant de très haut niveau qui est logé et qui s'en sert de base arrière pour mener des attaques. En droit français, on ne peut pas intervenir. Donc l'idée, c'est de faire évoluer ce droit, non pas pour aller espionner les serveurs, voilà. Mais bien pour aller identifier ces attaquants et les empêcher de nuire.
Pour terminer tous, hein, dites-moi, au-delà des opérateurs télécoms, ça préjuge d'obligations un peu plus répandues qui concerneraient toutes sortes d'acteurs publics, privés, finalement, de pouvoir contraindre, au nom de la sécurité, de pouvoir obliger quelque part un mot chacun et on se dit au revoir, Jérôme Bilois ou Wavestone.
Le problème, ça fait 15 ans qu'on essaye de sensibiliser, ouais. Même les acteurs les plus sensibles, ça marche pas.
Il faut tacler un moment, c'est
et
ça?
À un moment ou un autre, quand ouais. Même, définir c'est quoi le socle minimum que les structures les plus sensibles doivent avoir, je trouve qu'il y a un intérêt pour faire avancer, et on voit que sur les dernières années, c'est quand même ça qui a fait avancer, même si c'est triste.
Faire peur, obliger, Bernard Duterte.
L'assurance, en l'occurrence, est complémentaire de toute la sécurité. C'est, je dirais, le dernier pavé qui permet de sécuriser le système et de permettre aux entreprises de continuer à travailler.
Il faut contraindre un peu plus, justement. La sensibilisation, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Frédéric Simotel, le mot de la fin.
Oui, il faut un peu taper sur les doigts. On l'a vu avec le RGPD, hein, ouais. pour y aller. Même si les entreprises ne seront sans doute pas toutes prêtes et là, loin de là pour certaines. Quand on vous dit l'amende, ça peut être 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça fait réfléchir, ça fait réagir en COMEX. Et il faut, justement, jouer toujours avec le COMEX, avec les dirigeants. C'est eux qui donnent l'impulsion et derrière, ça suit.
Bon, c'est très bien. Voilà, à suivre, bien entendu, évidemment. On y reviendra sur ces cyberattaques qui ne sont pas terminées. Un grand merci à Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, rattachée donc à l'hôtel de Matignon auprès du Premier ministre. Jérôme Bilois, expert sécurité dans le cabinet Wavestone. Bernard Duterte, directeur de la souscription des risques spécialisés chez Generali France. Et puis Frédéric Simotel, que vous retrouvez quasiment H24 sur BFM Business au travers de ses interventions et notamment 01 Business le week-end, bien sûr. Merci à tous. Les codeurs de l'écho qui reviennent très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.